Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Jude. Nous arrivons à la fin d'une section, la section dans laquelle Jude décrit ses intrus, ses faux enseignants, Jude. Et nous allons lire les versets 14 à 16. La lettre de Jude. Et nous commençons la lecture donc au verset 14. Voici la parole de Dieu. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses ont proféré contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et jusque-là, la parole de Dieu. C'est pas juste. C'est un cri que l'on entend dans toutes les générations. L'enfant qui pense qu'il n'a pas été traité comme il le méritait. L'adolescent qui pense qu'il n'a pas eu ce qu'il méritait. Des adultes aussi peuvent crier la même chose. Parce qu'il y a quelque chose en chacun d'entre nous qui aspire à l'équité, à la justice. Le revers de la pièce, c'est que l'injustice nous dérange au plus profond de nous-mêmes. Quand quelqu'un va en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, on parle d'injustice, on parle d'une erreur de justice, peut-être même d'un abus de justice. Quand la méchanceté flagrante reste impunie ou moins punie qu'elle le mérite, cela nous dérange. Mais dans ces versets que nous allons regarder ce matin, Jude affirme très clairement que le jour vient où la véritable justice sera exercée de manière parfaite. Et cela est un réconfort dans le sens où tous les torts seront réparés, mais aussi quelque chose de terrible au sujet de cette réalité, parce que les impies que Jude décrit pour nous, pour eux, cette réalité devrait engendrer en eux une peur qui éclipse tout le reste. Certains vont nier l'existence du jugement ou repousser cette idée, mais Jude ne va pas permettre que cela se produise. Le jugement vient. Il est inévitable et il sera rendu selon la justice parfaite de Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas préparés, ce sera une tragédie éternelle. Et ce passage souligne aussi l'impiété qui mérite, qui attire même le jugement de Dieu. Et on va voir cela en trois parties. Premier grand point, le jugement est promis. Mais avant de regarder le contenu du verset 14, on doit relever un défi que nous présente cette promesse de jugement. Et en particulier, la source de cette promesse. Jude écrit au verset 14, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. » Et la difficulté, c'est que la citation qui suit ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. La fin du verset 14 et le verset 15 viennent d'un livre qu'on appelle le premier livre d'Enoch. C'est un livre qui est apparu dans la littérature juive un peu après l'an 200 avant Jésus-Christ. Il fait partie d'une catégorie de livres qu'on appelle les livres apocryphes de l'Ancien Testament. Des livres dont la paternité est faussement attribuée. C'était une pratique assez courante dans la période entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ça s'est même poursuivi au début de l'Église, de l'ère de l'Église. des livres qu'on attribuait faussement à un auteur étaient quelque chose qui était répandu. C'était aussi quelque chose qui était des livres qui étaient souvent utilisés, voire même appréciés. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que aucun groupe juif dans la synagogue ou aucun groupe chrétien dans l'Église primitive n'a considéré ces livres comme faisant partie de la parole de Dieu, comme faisant partie des livres qui étaient inspirés par l'Esprit Saint et qu'ils devaient être inclus dans le canon de l'Écriture. Aucun, que ce soit parmi les Juifs qui ne l'acceptaient pas dans l'Ancien Testament ou de l'Église primitive qui ne l'acceptaient pas dans le Nouveau Testament. Et donc, l'inclusion par Jude de cette citation provenant d'un tel livre est quelque chose qui a posé problème dans l'Église dans les premières années. Certains ont pensé que Jude ne devait pas être inclus dans le Nouveau Testament parce qu'il utilisait du matériel d'un de ses livres apocryphes. D'autres, à cause de cette citation par Jude du premier livre d'Enoch, sont allés à l'opposé et ils ont voulu attribuer à l'ensemble du livre d'Enoch plus d'autorité. Pour les chrétiens qui ont une vision biblique et orthodoxe de l'inspiration divine de l'Écriture et du canon biblique tel qu'il est connu dans l'histoire de la Bible, tel que nous l'avons dans nos Bibles, il y a essentiellement deux façons de répondre à ce problème. La première façon, c'est de comprendre que Jude utilise le matériel que ses lecteurs connaissaient bien, qui existait, qui circulait à l'époque, et que donc que ses opposants connaissaient bien, que ses faux docteurs, ses faux enseignants connaissaient bien, et qu'il l'utilise d'une manière rhétorique. En d'autres mots, Jude ne considère pas nécessairement cette citation comme étant authentique, mais ses lecteurs et ses opposants la considèrent ainsi, et donc Jude va l'utiliser pour renforcer son argumentation. Le problème avec cette façon de voir, c'est que Jude ne donne aucune indication qu'il utilise cette citation de cette façon. Et en plus, on devrait présumer que ses adversaires avaient une haute estime pour ce livre d'Enoch, ce qui est peu probable, compte tenu du contenu du livre d'Enoch et de la philosophie antinomienne des adversaires de Jude. Et donc la deuxième façon d'aborder cette question, c'est sans doute la meilleure, c'est de voir que Jude utilise cette citation parce que sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, Jude considérait ces paroles comme authentiques. Et par ce fait que Jude inclut cette citation dans sa lettre sous l'inspiration, sous la direction de l'Esprit-Saint, nous pouvons conclure que cette citation est authentique. Et en lisant simplement le texte, Jude semble déclarer donc qu'Enoch a prophétisé au sujet de ses faux enseignants. Don Carson, dans son commentaire, écrit ceci: « Cela suggère que Jude a vu ce texte comme préservant la prophétie authentique. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il pensait que tout le livre d'Enoch était prophétique. » Un point reconnu par Augustin. En d'autres mots, le fait que Jude cite le livre d'Enoch ne nous oblige pas à conclure que le livre d'où est tirée la citation est inspiré. Ou que Jude considérait le livre entier comme étant inspiré. Mais donc, selon et en accord avec notre conception biblique de l'inspiration de l'Écriture, nous pouvons comprendre cette déclaration comme venant d'Enoch, le personnage biblique. Cette déclaration a été préservée d'une manière ou d'une autre au travers des siècles, qu'elle a été incluse dans le premier livre d'Enoch et que Jude, par l'inspiration de l'Esprit-Saint, a inclus dans sa lettre. Le commentateur Matthew Henry clôt le débat en disant: « Nulle part ailleurs dans l'Écriture, il n'est mention de cette prophétie d'Enoch. Mais désormais, elle s'y trouve, parce que Jude la cite. Mais ce qui nous concerne davantage, c'est le contenu de cette prophétie. Quelle que soit la façon dont Jude utilise la citation, le langage de cette citation nous renvoie directement au langage de l'Ancien Testament, dans différents endroits qui parlent de la venue de Dieu avec ses anges pour juger la terre. Zacharie 14, verset 5, par exemple. « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Zacharie 14, verset 5. Quand Jude cite ce livre d'Enoch, il va apporter quelques changements dans la citation. Il va utiliser le mot « Seigneur » vers la fin du verset 14. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Jude inclut ce mot « Seigneur » dans la citation. La prophétie d'Enoch, qui est pleine de vocabulaire de l'Ancien Testament au sujet de la certitude du jugement de Dieu à venir, Jude va l'adapter spécifiquement pour qu'elle fasse référence au retour du Seigneur Jésus-Christ quand il viendra pour juger les vivants et les morts. Et c'est pour ça qu'il utilise le mot « Seigneur ». Cette citation utilise directement un autre passage de l'Ancien Testament, Deutéronome 33, verset 2. Rappelez-vous, quand Moïse bénit le peuple d'Israël, il leur rappelle la présence des anges auprès de Dieu quand l'Éternel leur est apparu sur le mont Sinaï pour donner la loi. Deutéronome 33, verset 2, « L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. » Et donc, étant donné cette utilisation particulière du langage de l'Ancien Testament, on a donc ici une prophétie appropriée concernant les faux enseignants antinomiens à qui Jude s'adresse. Et un commentateur précise, il dit, il y a une double ironie ici dans Jude. La loi même que les enseignants ont si méprisée a été mise en œuvre par les anges dont ils ont calomnié l'autorité. Verset 8. Mais ce sont ces mêmes anges, si méprisés par les faux enseignants, qui seront présents à leur jugement. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle d'une manière similaire quand il parle du jugement dernier. Matthieu 25, verset 31 et suivant. Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. » Cette exclamation que l'on a dans Jude 14, « Voici !» Elle est destinée à secouer les lecteurs à la réalité de ce caractère bouleversant du jugement qui va prendre place à la fin de l'histoire. Ce sera un événement impressionnant dans sa grandeur, dans sa puissance. Des milliers d'anges accompagneront le Seigneur Jésus quand il viendra pour juger. Et Jude déclare la certitude de ce jugement. Il écrit « Le Seigneur est venu ». On l'a dit la dernière fois, c'est le langage prophétique, les langages utilisés souvent, parlaient souvent au passé pour parler d'un événement soit présent ou même futur, pour surtout décrire la certitude de la réalisation, de l'accomplissement. Cela va se passer. C'est tellement sûr qu'on peut l'écrire au passé. Le jugement à venir est si certain, si inévitable, que Jude écrit comme s'il avait déjà eu lieu. Le jugement est annoncé, le jugement est promis. Et Jude continue de parler de façon explicite du but du retour du Seigneur Jésus-Christ, comme il le dit au début du verset 15, pour exécuter un jugement contre tous. Et donc, cela nous amène au deuxième point. Si le jugement est promis, deuxième point, les motifs du jugement sont précisés. Et Jude va expliquer le but du retour du Seigneur Jésus-Christ de deux façons. Fin du verset 14, début du verset 15. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Autre manière de traduire, c'est pour convaincre les impies. Et ce vocabulaire nous renvoie au vocabulaire de la cour de justice. Premier petit point, petit A, le Seigneur vient pour exercer un jugement. Voilà un vocabulaire du tribunal, de la cour de justice. Le mot qui est traduit par jugement renvoie à l'administration de la véritable justice. Il s'agit de trancher une question de bien ou de mal sur un plan juridique, et par conséquent de déterminer l'innocence ou la culpabilité de l'accusé, et d'infliger la peine appropriée. L'accent ici est mis sur la nature juste du jugement qui vient. Il n'y aura pas de place pour la subjectivité, il n'y aura pas de parti pris, pas de favoritisme. Ce jugement sera parfait. Ce sera une justice que le monde aujourd'hui ne connaît pas. Ce jugement sera parfaitement exercé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'y aura pas d'erreur de justice. Le Seigneur vient pour exercer un jugement. Personne ne pourra s'en tirer facilement ou simplement avec une réprimande, comme on peut le voir trop souvent dans les tribunaux humains. Ce jugement sera parfait. Et deuxièmement, il vient pour faire rendre compte à tous les impies ou pour convaincre les impies. Encore une fois, le langage du tribunal. L'accent, au début, pour exercer le jugement, l'accent est mis sur la nature juste du jugement. Ici, l'accent est mis sur la preuve de culpabilité. Ici, l'idée ici, c'est de démontrer avec succès la véracité de l'accusation. Dans le jugement que le Seigneur va exercer, il y aura une démonstration irréfutable de la culpabilité de l'homme déclaré coupable selon la justice de Dieu. Le sens de cette expression pour faire rendre compte à tous les impies implique qu'il n'y a aucune possibilité de démentir cette accusation. Il ne sera pas possible, après coup, de dire qu'une partie ou l'autre n'a pas été entendue de manière adéquate. Il n'y aura pas de preuve que l'on pourra sortir d'un chapeau au dernier moment. Non, la vérité sera entièrement exposée. Personne ne pourra la réfuter. Et cette affirmation que l'on entend trop souvent, « je fais de mon mieux » ou « j'ai fait de mon mieux », cette affirmation ne suffira pas. Un commentateur dit dans ce jugement, le véritable caractère de ces enseignants impies sera mis en lumière. Mais quelle est la base pour un jugement qui sera exercé aussi parfaitement? Et Jude le dit très clairement, c'est l'impiété. Verset 15, on trouve ce mot répété. Alors dans notre version en français, il est répété à 3 reprises. Dans l'original, il y a 4 formes de ce mot impiété. Le Seigneur vient pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et dans l'original, on précise d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Impossible de passer à côté de ce que Jude veut souligner. Jude est focalisé sur le jugement des faux enseignants, mais c'est l'impiété de ces faux enseignants qui est la base, la garantie de leur jugement, si on peut le mettre ainsi. L'utilisation à 4 reprises dans le grec de ce mot par Jude explique clairement pourquoi ces hommes vont connaître un jugement certain, leur condamnation certaine et leur châtiment juste, et la raison pour cela est leur impiété. La racine de ce mot « impiété » fait appel à l'idée de révérence ou d'honneur envers Dieu. Et donc le négatif de cette idée, c'est une attitude irrévérencieuse, désinvolte envers Dieu. Ça peut être simplement un mépris, ça peut être aussi une indifférence. C'est l'idée de « sans Dieu ». Que ce soit dans les paroles, les actes, les pensées, la vie. Ça peut être un état d'esprit dans lequel une personne va s'opposer ou lutter activement contre Dieu. Ou ça peut être simplement une indifférence à l'égard de Dieu. En d'autres mots, on ne parle pas ici d'athéisme philosophique. On parle ici d'une impiété pratique, d'une vie sans Dieu. Ce qui se trouve derrière toutes les actions, toutes les paroles de ces faux enseignants, c'est cette impiété. Ils ont formulé leur style de vie, ils ont formulé leur message, leur enseignement dans le langage de la grâce, mais ce qui est vraiment derrière leur immoralité, c'est leur impiété. C'est de vivre sans Dieu. C'est de mépriser, c'est de désobéir à la parole de Dieu, ce qui est caractéristique de l'impiété. Et c'est la base, c'est ce qui est à la base de ce jugement inévitable de Dieu sur les pécheurs, l'impiété. La répétition de ce mot « impie » sous différentes formes, elle est presque gênante, mais elle souligne le véritable problème, non seulement de ces faux enseignants, mais le problème de l'homme par nature. Il y a un autre mot que Jude souligne dans ce verset. C'est le mot « tous ». Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Et Jude veut souligner ici la nature complète de ce jugement. Il n'y a pas une seule offense contre Dieu qui pourra échapper au jugement, qui pourra être ignorée lors du jugement. Eux tous, dans toute leur impiété, seront jugés et punis. L'évidence qui sera apportée lors du jugement, ce sera toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre le Seigneur. Ces paroles injurieuses traduisent une attitude irrévérencieuse à l'égard de Dieu, un mépris de Dieu qui se reflète dans leurs paroles. Ils montrent dans leurs paroles qu'ils sont contre Dieu et le verdict tombera, ils sont coupables. Un commentateur résume ce verset 15 en disant « C'est comme si Jude criait depuis le pupitre, c'en est assez de cette idée stupide que Dieu ne juge personne. Les impies qui sont partout et dans chaque génération seront jugés. » Jude veut que personne ne doute de la certitude de ce jugement. Le jugement vient. Personne ne pourra l'éviter. C'est un jugement qui est universel, un jugement qui est complet, un jugement qui est parfait. Et tous les impies seront reconnus coupables et condamnés. On a vu le jugement qui est promis. Les motifs du jugement sont précisés. Troisième grand point, les destinataires du jugement sont décrits. Et Jude poursuit en décrivant le portrait de l'impiété. À quoi ressemble cette impiété? Quelles sont les paroles injurieuses que des pécheurs impies ont proférées contre le Seigneur? Jude nous en donne une description qui peut nous surprendre. Le premier élément, c'est l'impiété du mécontentement. Verset 16, « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. » Dans l'original, ce sont deux mots qui se complètent pour dépeindre une image. Le premier mot est un mot biblique, un mot qui est très répandu dans la Bible. Le deuxième est spécifique à Jude. Une personne qui murmure, ça c'est le premier mot. Une personne qui a l'habitude de se plaindre. Quelles étaient les paroles injurieuses qui ont été proférées par ces pécheurs impies? Des plaintes, des murmures. Cela nous renvoie bien sûr à l'Ancien Testament, à la génération de l'Exode. Les Israélites se sont plaints contre Dieu dans le désert. À la première difficulté après la sortie d'Égypte, les Israélites se sont plaints contre Dieu. Nombre 14, versets 26 et 27, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Nombre 14, 26 et 27. Se plaindre de nos circonstances, c'est par nature un mécontentement que l'on manifeste envers Dieu pour nos circonstances. C'est quelque chose qui peut se glisser dans le cœur de n'importe quelle personne, même de n'importe quel croyant. Et c'est quelque chose qui se rebelle, qui manifeste une rébellion contre Dieu. C'est une insatisfaction, un mécontentement de nos circonstances. Et d'une manière ultime, c'est un mécontentement avec l'auteur de nos circonstances. Et c'est de l'impiété irrévérencieuse, nous dit Jude. Le deuxième mot est traduit par cette expression que nous avons, qui se plaignent de leur sort. C'est une image descriptive qui nous vient du théâtre grec antique, où les acteurs avaient un masque pour jouer un personnage. Et ici, ce personnage grec ancien est quelqu'un qui est capable de trouver de quoi se plaindre dans n'importe quelle situation. C'est le caractère opposé de celui qui peut toujours voir le bon côté des choses. C'est celui qui se plaint, qui ne voit que les épines dans un bouquet de roses. Mais pire que ça, il y a un cynisme impie au cœur du mécontentement. Dans les meilleures situations, ce personnage va trouver quelque chose de négatif qu'il va pouvoir chercher à souligner. Par exemple, quand on présente à ce personnage la joyeuse nouvelle de la naissance de son premier fils, sa première pensée ou sa première réponse est « il va me coûter beaucoup d'argent ». Un commentateur décrit ce personnage ainsi. Il peut trouver à redire aux meilleures affaires, aux plus belles actions, aux plus belles réussites, aux plus beaux succès. C'est cette compétence spéciale de toujours trouver quelque chose de négatif, que ce soit potentiel ou réel. Mais ce n'est pas une compétence qui caractérise ou que caractérise la piété. Il peut être facile pour nous de reconnaître l'impiété d'une conduite immorale. Mais est-ce qu'on a sérieusement réfléchi à l'impiété du mécontentement? On ne parle pas ici de tristesse ou de pleurs quand on fait face à des difficultés dans la vie, quand on ne comprend pas la providence de Dieu. Non, on parle ici d'un esprit qui est mécontent, qui murmure, qui se plaint et qui est, selon Jude, sans Dieu, impie. L'apôtre Paul place la piété à côté du contentement. En 1 Timothée 6, verset 6, Jude place les contraires côte à côte. Ils sont liés entre eux. C'est un cœur impie et irrévérencieux qui dit, et pas toujours de façon audible, « Mes circonstances devraient être différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est Dieu qui est responsable. Comment ose-t-il? Cela revient à brandir le poing vers le ciel en contestant notre sort, contestant même la domination souveraine de Dieu sur nos vies et nos circonstances. On pourrait résumer l'esprit de ces hommes par la réponse de la femme de Job en Job 2, verset 9, « Maudit Dieu et meurt ». L'opposé de l'impiété et du mécontentement, c'est la réponse inspirée par l'Esprit Saint que Job donne en Job 1, verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'approche sage des difficultés, des choses frustrantes de ce monde, c'est de se rappeler que Dieu est toujours sur son trône. Que celui qui est devenu mon Père céleste en Jésus-Christ a un plan. Et que personne ne pourra l'empêcher d'exécuter ce plan de manière parfaite. Et même si je pense que, d'après ce que je vois, il manque des pièces au puzzle de ma vie, que les pièces ne vont jamais aller ensemble, je sais que cela ne peut pas être le cas, parce que Dieu a promis le contraire. L'attitude sage, qui est contraire à l'attitude cynique, c'est de miser tout ce que j'ai sur la bonté de Dieu, sur les promesses de Dieu. Attitude sage, contraire aux murmures et aux mécontentements, c'est de pouvoir dire, comme Job en Job 13, verset 15, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Alors posons-nous la question. Est-ce que nos voisins, nos enfants, les membres de nos familles, les collègues au travail, est-ce qu'ils nous voient vivre une vie d'impiété quand on s'irrite au sujet de nos circonstances, au sujet de notre avenir, au sujet des décisions de notre gouvernement ou toute autre chose? Ou bien est-ce qu'ils nous voient avec cette foi audacieuse en Dieu qui fait toutes choses bien, dont le règne n'a pas de fin et qui a promis de ne jamais abandonner ses enfants? Voilà ce que ceux qui nous regardent devraient voir en nous. Cette foi audacieuse en Dieu qui fait toutes choses bien. Peut-être que nous avons déjà lutté avec le murmure et le mécontentement. Peut-être que le Seigneur nous montre à travers des moments de frustration la tendance de notre cœur à tomber dans le murmure et le mécontentement. Cette disposition naturelle. Et il nous invite à lever les yeux vers lui et à regarder à lui et à lui seul. Le deuxième élément, c'est l'impiété de la fierté égoïste. Jude continue au verset 16, « Ils marchent selon leur convoitise. » Quel est le cœur impie du mécontentement? C'est d'être esclave au désir, pécheur, égoïste. C'est la nature impie, égoïste que Jude met en avant dans cette expression. C'est le cœur qui non seulement alimente les murmures et le mécontentement, mais qui alimente tout, toute immoralité. C'est l'impiété face à la tentation du moment. Je ne me soucie de rien d'autre en ce moment, sauf me faire plaisir. C'est l'impiété de la pensée et du comportement immoraux, comme s'il n'y avait pas de Dieu, ou comme si Dieu n'allait pas juger. Le contraire, l'opposé, bien sûr, en Apocalypse 14, verset 4, nous avons cette merveilleuse description des vrais croyants qui suivent l'agneau partout où il va. Alors que l'impie suit ses propres convoitises partout où elles le conduisent. Jude continue, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils admirent les personnes par motif d'intérêt. Derrière cette arrogance égoïste qui se voit dans les grands discours, les paroles hautaines, il y a une faiblesse. Ces gens admirent les personnes par motif d'intérêt. Une autre version dit, ils font preuve de favoritisme pour en tirer un avantage. Ils font de grands discours, ils parlent bien, mais au fond, c'est une question d'autopréservation. Comme le dit un commentateur, nous les trouvons à la merci de leur propre crainte de ce que les hommes leur feront. Et c'est de l'impiété, parce que cela met l'homme à la place de Dieu. C'est une autre forme d'orgueil, de l'orgueil impie. Et Jude arrive donc à la fin de cette section qui va du verset 5 au verset 16, où il décrit ces impies, ces faux enseignants impies qui présentaient un réel danger, qui ont été la motivation derrière cette lettre. Et dans ces derniers versets de ce portrait, Jude ne laisse aucun échappatoire devant le jugement de Dieu. Les pécheurs impies seront punis, seront jugés. Jude est très clair là-dessus. Et alors que la description de l'impiété se dévoile, décrivant ce à quoi elle ressemble, ce qu'elle est dans son essence, comment elle se manifeste dans notre orgueil, dans notre crainte des autres, ou dans notre murmure, là où nous voulons détrôner Dieu. Combien il est merveilleux de penser aux paroles du Seigneur Jésus, en Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le dossier complet, le fichier complet de tous mes péchés impies, commis de manière impie, par un pécheur impie que je suis par nature, tout cela a été effacé. Comment se peut-il qu'un pécheur impie puisse échapper au juste verdict du jugement parfait pour toute son impiété? C'est parce que la justice du jugement parfait a été infligée sur un autre. La justice a condamné mes murmures, mon cynisme impie, mon orgueil, tout le reste. Mais ce verdict irréfutable de culpabilité, qui est le mien à juste titre, il a été prononcé sur celui qui a porté mes péchés à ma place, dans son corps, à la croix. Paul écrit en Romains 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Une telle déclaration devrait faire fondre nos cœurs. Et l'apôtre Paul continue, Romains 5, verset 7 et suivant, « À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alors que l'on grandit dans la grâce, que l'on voit de plus en plus la corruption du péché, on devrait être de plus en plus émerveillé en réalisant que la justice a été exercée, que le Seigneur Jésus-Christ a subi la condamnation que je méritais par nature, que mes péchés ont été lavés par le sang de Christ. Ils ont été effacés et qu'il n'y a plus de condamnation pour les impies, pour ceux qui étaient impies et qui sont maintenant en Jésus-Christ. Et ça, c'est un carburant pour une vie de piété. Je sais qu'il reste encore beaucoup d'impiété en moi, mais je sais que j'ai un Père céleste qui est plein de miséricorde, plein de patience, qui a commencé en moi une bonne œuvre qu'il va mener à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. C'est donc en lui que je vais continuer de mettre ma confiance. Il n'y a aucune possibilité d'échapper au jugement de Dieu, si ce n'est en étant caché en Christ. Alors venez à Christ, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pensez à deux cantiques pour terminer. Le premier, c'est un cantique en anglais. Je n'ai pas trouvé la version française, je ne sais pas si elle existe. C'est un cantique de William Cooper, dont la première strophe dit ceci. Il y a une fontaine remplie de sang qui coule des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs plongés dans ce torrent perdent toutes leurs taches de culpabilité. Et le deuxième cantique dans nos recueils, c'est ce cantique « Jésus, par ton sang précieux ». Et le troisième strophe dit ceci. « Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. » Le refrain blanc, plus blanc que neige. « Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. » Que nous puissions tous chanter cette merveilleuse réalité. Que Dieu donc nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.